C'est bien, monsieur de la barre. Il paraît que le digne seigneur Témim veut passer par Marseille.
Oui, sire, il veut voir les galériens marocains.
C'est fort ennuyeux. Le traité que nous avons signé, lui en donne-t-il le droit?
Pas expressément, sire.
Vous qui connaissez cette affaire mieux que moi, vous me feriez plaisir en me résumant à grands traits ce qui est dit dans ce traité sur les prisonniers de nos deux pays.
L'article 6 stipule que tous les Français pris par nos ennemis et qui seront conduits dans les ports et terres de l'empereur du Maroc seront mis aussitôt en liberté sans pouvoir être retenus comme esclaves. L'article 7 précise que tous les esclaves français qui se trouvent actuellement dans l'étendue du désert sous la domination de l'empereur du Maroc pourront être rachetés moyennant 300 livres pièce.
L'empereur du Maroc est donc fondé à nous demander la réciproque.
C'est exact, sire.
Je vais donc donner des ordres à l'instant même pour que, surtout quand l'ambassadeur du Maroc sera à Marseille, on ne lui permette à aucun moment de rencontrer des galériens de son pays.
On ne pourra donc pas lui montrer les galères. C'est ce qu'il a demandé avant toute chose.
Il y a tant de galères à Marseille qu'il est impossible de les cacher à cet ambassadeur. Au contraire, il faudra les lui faire visiter afin qu'il prenne la conscience de ce qu'est la force de ma marine. Mais on en retirera au préalable tous les galériens marocains que l'on mettra en lieu sûr. Il est important que l'empereur du Maroc ne puisse obtenir aucune information du nombre d'esclaves de son pays qui sont sur mes galères. Vous devez savoir, monsieur de la Barre, que les rapports qui me sont faits me confirment chaque jour dans la certitude qu'il n'existe point sur les galères de meilleurs rameurs que les Marocains. Ne croyez pas que je vais m'en séparer et affaiblir ma flotte pour satisfaire les souhaits d'un prince sauvage.
Mais, sire, Moulay Ismail est un souverain puissant. Et quiconque a voyagé au Maroc s'aperçoit que ce n'est point un pays sauvage.
M'apporteriez-vous un démenti, capitaine?
Un démenti? Oh, sire, je donnerais ma vie plutôt que de commettre un tel crime.
L'empereur du Maroc prit un faux dieu. Et vous devez savoir que tous ceux qui ne sont point de la sainte religion, catholique, apostolique et romaine, sont des sauvages. À vous revoir, monsieur.
Sire. Puis-je avoir l'audace de poser une question à votre majesté?
Mais je vous écoute.
Le fils de l'adjoint de l'ambassadeur est précisément aux galères de Marseille. Messieurs de Croissy et de Seignelay ont promis sa libération à l'ambassadeur.
Très bien qu'on le libère. Je n'y vois pas d'inconvénient. Mais lui seul. Il faut d'ailleurs croire qu'un prince de haute naissance ne doit pas faire un bien bon rameur. Eh bien, mon ami Mohamed,
me rapportes-tu un bon traité de Paris?
J'ai été admirablement reçu, seigneur.
Comment est cet empereur des Francs?
Il est superbe à voir, et sa puissance en son royaume égale presque la tienne.
C'est bien ce que m'avait dit mon neveu. Et ce palais de Versailles dont tu m'as parlé dans ta lettre?
C'est une pure merveille.
Aussi beau que mon palais de Meknès?
Presque.
J'ai reçu une lettre du roi Louis XIV. Il se dit mon très cher et bon ami et déclare qu'il est très satisfait de ta bonne conduite. Il me dit qu'il donne ordre à ses vaisseaux de ne plus attaquer les nôtres. J'ai donc donné le même ordre à nos vaisseaux. Je suis étonné que tu n'aies pas de traité à me montrer.
À la vérité, seigneur...
À la vérité?
L'empereur des Francs va t'envoyer un ambassadeur et il te portera lui-même le traité.
Eh bien, je le recevrai. Mais tu ne me parles point de nos frères prisonniers sur les galères des Francs. C'est pour cela que je t'ai envoyé à Paris. Je ne puis tolérer que mes sujets encourent 1000 morts en ramant comme des bêtes sur ces galères. J'ai reçu une lettre que les galériens de Marseille sont parvenus à me faire passer clandestinement. Lis-la toi-même.
J'obéis, seigneur. Voici donc ce qu'ils écrivent. Non, sire, jamais on n'a exercé de si grands tourments dans les enfers que ces chiens impitoyables exercent sur nous. La faim, la nudité, les injures exécrables contre notre sainte religion et contre notre prophète, le mépris pour notre roi et notre nation, les coups de bâton, les chaînes pesant plus de 100 livres et l'excessive peine de ramer ne sont que les tourments ordinaires que nous souffrons. Nous avons ouï dire que c'est pour l'amour de nous que votre majesté a envoyé un ambassadeur à leur roi. Mais ces chiens n'eurent pas plutôt appris son arrivée qu'ils nous envoyèrent tous en mer sur les galères, excepté les vieillards et ceux qui n'avaient pas la force de ramer, qu'ils mirent encore en prison dans une maison éloignée afin qu'il n'eût point de nos nouvelles. Ils l'ont toujours amusé de paroles en le trompant jusqu'à ce qu'il fût parti pour s'en retourner auprès de votre majesté. C'est vrai?
Oui, Seigneur. Tu n'as vu aucun de nos frères à Marseille?
Aucun.
Alors tu es un imbécile.
Ils se sont joués de moi.
Un imbécile et un incapable.
Ôte-moi la vie si tu le crois juste, Seigneur.
J'attends l'ambassadeur français dont tu me parles. J'aviserai ensuite en ce qui concerne ton sort.
Est entre vos mains, monsieur de Saint-Amand.
Comment cela?
Je n'ai pas osé dire à mon maître, le sultan, que j'avais avec moi le texte du traité. Il m'aurait fessé en se tenant de couper la tête.
Diable! Et pourquoi cela?
Parce que monsieur Colbert de Croissy et monsieur de Senglet m'ont, comme vous dites, je crois, roulé dans la farine. Le traité est au seul avantage de votre maître et nullement du mien. Puisque vous êtes l'ambassadeur qu'envoie l'empereur des Francs à l'empereur du Maroc, je vous demande de parler des engagements que j'ai dû souscrire comme s'ils étaient encore à négocier.
Vous me demandez beaucoup, Seigneur Thémine.
Tout est question de traduction. Si vous avertissez votre interprète, il fera à mon maître de tels compliments qu'il en sera content et que sa bienveillance me reviendra.
J'essaierai, Seigneur Thémine. J'essaierai. Mais avouez que vous me confiez là une tâche bien difficile.
Je vous en serai reconnaissant toute ma vie.
Je suis arrivé le 10 décembre 1682 en vue du camp de Sa Majesté l'Empereur du Maroc. On vint me saluer et on me conduisit, moi et ma suite, sur une hauteur d'où je pouvais voir commodément le roi. C'était le jour de leur Pâques. Ils solennisaient par leurs exercices habituels, c'est-à-dire en se livrant à des courses effrénées. Le roi montait un très beau cheval bai. Son habit était de couleur brune, et il portait un fusil dont il tira plusieurs coups en se mêlant à ses gens. Il était fort adroit, et il parut extrêmement ferme à cheval. Ce divertissement dura 2 heures. Deux caïds vinrent me dire que le roi ne me donnerait pas audience ce jour-là à cause de l'Aïd al-Kibir. Ensuite, ils me menèrent, moi et ma suite, dans un endroit où nous trouvâmes nos tentes dressées et nos bagages arrivés. Le lendemain, conduit par le caïd Ben Hadou, nous nous sommes présentés au quartier du roi. Nous trouvâmes Moulay Ismail assis sur un tapis de Perse et ayant derrière lui un pavillon de toile peinte qui lui servait de dais. Nous le saluâmes en nous inclinant et en nous découvrant.
C'est très bien, couvrez-vous, messieurs. Soyez les bienvenus. Je remercie Dieu de ce que vous soyez arrivés en bonne santé et de ce que ma religion soit de ne croire qu'en un seul Dieu créateur de toutes choses.
Dans la mienne, on ne croit aussi qu'en un seul Dieu.
Ce n'est pas pour discuter, mais je vous en parle comme un bon ami qui est toujours obligé de conseiller le bien à ceux qu'il aime.
Je remercie votre majesté de son conseil, et je la prie d'agréer que je n'en profite à ce point.
Je reconnais que vous avez beaucoup d'esprit.
Voici les lettres de mon maître, le roi de France, qui m'accrédite auprès de votre majesté. Fort bien. Nous allons donc négocier. Voici l'Al-Qaïd Ali qui sera mon négociateur.
Pardonnez-moi, sire, mais je suis ici pour la ratification de la paix.
Temi!
Oui, seigneur.
Il s'agit seulement de ratifier. Tu m'as dit que l'on négocierait.
Mais c'est une question de traduction, seigneur, une simple question de traduction.
Je l'espère. Quant à vous, monsieur l'ambassadeur, je veux que vous connaissiez ma position sur les conditions d'une paix définitive. J'accorderai à votre roi tout ce qu'il me demandera pourvu qu'il se fasse un échange des esclaves tête pour tête et un Français contre un mort.
Sire, il faut que votre majesté sache que je n'ai aucun pouvoir pour modifier ce qui a été décidé à Saint-Germain.
Rien n'a été décidé tant que je n'ai pas fait connaître ma volonté. Allez, monsieur l'ambassadeur. Et sachez que personne, jusqu'ici, n'a fait plier Moulay Ismaïl.
Ah, vous voilà de retour, cher Saint-Amand.
Après avoir accompli au Maroc la mission la plus difficile de mon existence, cher Labarre.
Oh, croyez que j'en suis convaincu.
La paix était à notre portée et notre tranquillité sur mer. Non, si j'avais pu seulement amener avec moi 20 Marocains délivrés des galères.
Mais le fils d'Ali Manino ne vous accompagnait-il pas?
Si, je pus le faire conduire au sultan qui s'en est trouvé quelque temps apaisé. Mais il faut convenir que sa position est logique autant qu'elle est claire. Il demande l'échange des esclaves tête pour tête et un pour un. Après quoi, il ratifiera le traité.
Ah, je ne comprendrai jamais pourquoi on ne veut pas consentir à une demande qui, après tout, est honnête.
Voyons, voyons, cher Labarre. Oubliez-vous ce que vous a dit Sa Majesté elle-même. Les Marocains sont les meilleurs rameurs qui soient sur nos galères.
Ainsi s'achevait la tentative de paix éternelle entre la France et le Maroc, par un malentendu. Il est assez extraordinaire d'avoir à constater que le souverain du Maroc ignora jusqu'à l'existence du traité du 29 janvier 1682 signé à Saint-Germain par Croissy, Seignelay et Thémines. Il en était resté au traité conclu avec Labarre le 13 juillet 1681. Et ce traité, Louis XIV l'avait désavoué. Comme l'écrit M. Younes Nekrouf, le roi très chrétien et le shérif allaient s'accuser l'un l'autre de mauvaise foi, de duplicité et de manquement à la parole donnée. Celui qui regretta le plus l'échec de la négociation, ce fut pourtant Moulay Ismaïl. À travers tout ce qui lui avait été dit de la grandeur de Louis XIV, il lui conservait au fond de son cœur une admiration qu'il n'éprouva pour aucun autre, et à cause de cette admiration, de l'indulgence à son égard. Il le prouva dans une offre fort extraordinaire, qu'il lui fit bien des années plus tard. C'était le temps de la fin du règne du roi Soleil. Après les victoires étaient venus les échecs, et le royaume de France se trouvait en grand péril. Moulay Ismaïl, qui était beaucoup mieux informé qu'on ne le croyait à Versailles, eut vent des difficultés de Louis XIV. Et il lui écrivit, le 22 juillet 1709, la plus incroyable des lettres.
Au seigneur Louis XIV, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, salut et accroissement de prospérité. Il nous touche de droit de faire attention à tout ce qui touche la maison ottomane, à cause du zèle avec lequel elle sert et assiste en notre saint temple de la Mecque la cause de la défense de l'islam contre ses ennemis. Or, voyant l'opposition si grande qu'a toujours eue la dite maison ottomane avec la maison autrichienne, et voyant encore qu'au milieu de tant de guerres dans lesquelles vous êtes engagés, vous conservez toujours avec les Ottomans une bonne paix et amitié, nous vous écrivons pour vous faire savoir que si vous aviez besoin d'un secours de troupes pour vous défendre contre les Autrichiens, je vous l'enverrai tant en cavalerie qu'en infanterie, parce que nous considérons que vous êtes meilleurs voisins que les Autrichiens et qu'il y a une meilleure correspondance avec vous qu'avec eux. Vous nous répondrez et on vous donnera entière satisfaction.
Louis XIV mit un an à répondre. Il faut dire qu'entre-temps, il y avait eu les 37 000 tués de Villars à Malplaquet. Il eût été trop beau que le roi Soleil accepta l'offre du souverain marocain. Mais il l'en remercia, en lui laissant entendre que c'était surtout sur Dieu qu'il comptait.
Très haut, très excellent et très puissant prince, notre très cher et bon ami, l'offre que vous nous avez faite est encore une nouvelle raison pour nous de souhaiter que Dieu, auteur de toutes sortes de biens, répande sur votre majesté ses lumières et ses bienfaits. C'est de lui que nous attendons uniquement les secours nécessaires pour finir heureusement la guerre que la jalousie des princes, nos voisins, a excitée contre nous et contre le roi d'Espagne, notre petit-fils. Nous souhaitons qu'il plaise à Dieu de conserver pour de nombreuses années votre majesté avec fin heureuse. Écrit en notre palais impérial de Versailles, le 3 juillet 1710. Louis.
Tel fut le dernier épisode d'une amitié dont le roi de France n'avait pas su comprendre la portée et qui fut pour le souverain marocain un rêve en forme de mirage. Oui, un rêve en forme de mirage. Et pour revenir sur ce souverain marocain, Moulay Ismail, nous avons demandé à M. Amin Mahalouf de nous rejoindre, André Castelot, Jean-François Cap et moi-même, au micro de la Tribune de l'Histoire. M. Amin Mahalouf est déjà venu à la Tribune de l'Histoire pour parler d'un ouvrage tout à fait remarquable sur les croisades vues par les Arabes. Et depuis, il a connu un immense succès avec son ouvrage « Léon l'Africain ». Et aujourd'hui, il vient de publier un nouveau roman, Samarcande, publié chez Lattès, qui vient d'obtenir presque après sa sortie, ce qui est exceptionnel, le prix des maisons de presse.
Alors, un prix considérable.
C'est un prix considérable, qui est une, pratiquement un certificat de succès assuré.
Oui.
Amin Mahalouf, vous connaissez admirablement la civilisation arabe, vous le prouvez dans tous vos ouvrages. Alors, je crois qu'il serait intéressant... Nous avons évoqué Moulay Ismail dans ses rapports avec Louis XIV, mais peut-être de faire le point sur ce souverain. Aujourd'hui encore, dans le monde arabe, quelle place occupe Moulay Ismail?
C'est un souverain d'une grande modernité. Il a rêvé, à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, de bâtir un royaume qui puisse entrer dans le concert des nations. Et il y a quelque chose de pathétique dans son rapport avec Louis XIV. Il avait envie, en quelque sorte, à travers cette amitié qu'il espérait, de trouver une place, une reconnaissance quelconque de la part des souverains européens. Et il pensait y avoir droit, parce qu'il avait unifié son pays, il marchait sur la voie de la modernité. Et là, il y a eu une profonde incompréhension, on l'a laissé de côté. L'époque de Moulay Ismail arrivait au moment du début du déclin de l'Empire ottoman. Lui-même a su, et là c'est un cas quasiment unique dans cette partie du monde, il a su garder son indépendance à l'égard des Ottomans. L'Empire ottoman s'est arrêté aux frontières du Maroc.
Mais il est réellement indépendant ou il y a tout de même un lien de vassalité vis-à-vis?
Il y a un lien, je dirais, purement formel. C'est-à-dire qu'il reconnaît, comme il apparaît dans les lettres...
laïque, monsieur
Non, essentiellement laïque.
Essentiellement laïque,
mais lié évidemment à l'appartenance à la même religion. Mais il reconnaît une certaine préséance au souverain, au grand souverain ottoman, qui est quand même le maître de l'ensemble du monde musulman, mais aucune véritable vassalité. Donc, il le mentionne dans ses lettres, il dit à Louis XIV, vous êtes quand même un allié du grand souverain musulman qui est l'empereur ottoman, mais en même temps, il tient à maintenir son autonomie, Il tient à prouver que lui est sultan au même titre que le sultan ottoman.
Au fond, il connaît plus le calife que le sultan, si je comprends bien.
Mais lui-même est également calife.
Il est lui-même calife.
Donc, il ne reconnaît pas de suzeraineté, il ne reconnaît pas de suprématie, mais il y a une volonté quand même de ne pas se montrer comme rival du sultan ottoman, qui est quand même le maître de l'ensemble monde musulman et de la moitié de l'Europe, puisqu'il est encore aux portes de Vienne.
Je voudrais vous poser une question, parce que je suis un peu sur ma soie, je veux savoir comment ça s'est terminé. Est-ce que les esclaves et chrétiens et marocains sont restés jusqu'à leur mort prisonniers, ou est-ce qu'il y a eu finalement un échange moyen une rançon?
Les esclaves ont été libérés en partie. Je ne suis pas sûr que les esclaves
marocains sont restés.
Oui, le traité permettait, n'est-ce pas, de racheter. Du côté français, on pouvait racheter les Français du Maroc, et le traité était muet par rapport à un rachat des Marocains. C'est ce qui fait qu'en effet, l'ambassadeur du shérif, l'ambassadeur de Ismaël, s'est laissé en quelque sorte, disons pour être très très courtois, qu'il s'est laissé impressionner par Colbert de Croissy et Seignelay. Il ne connaissait pas la langue, l'interprète était plutôt du côté français, et mon Dieu, il s'est laissé éblouir. Je pense que c'est l'explication, parce que il n'a pas réussi dans sa mission, et la colère de Moulay Ismaël se comprend, mais on a aussi trompé Moulay Ismaël, parce que cette association de l'ambassadeur français Saint-Amand qui veut arranger les choses, d'ailleurs c'est très charmant, il veut arranger les choses de ce pauvre ambassadeur marocain, il ne veut pas qu'on lui coupe le cou. Alors on va raconter des tas de choses à Moulay Ismaël, ce qui fait que, et cela monsieur Younes Nekouf dans son ouvrage sur les rapports de Moulay Ismaël et de Louis XIV le signale très bien, nous avons deux souverains dont aucun n'assure réellement ce qu'avaient signé ses délégués, ce qui est assez surprenant.
Est-ce que le roi actuel du Maroc descend de Moulay Ismaël?
Oui, c'est la même
famille. Même dynastie.
Oui,
ils descendent tous du prophète, de toute façon.
Oui. Il y a un élément, à mon avis, intéressant, c'est que, par rapport au souverain marocain à l'époque, la France est la puissance européenne qui est la moins hostile au monde musulman. Parce que, à l'époque, l'autre puissance, et cela depuis l'époque de Charles Quint, c'est la maison d'Autriche, qui fait face au monde musulman aussi bien à l'est, c'est-à-dire du côté de l'Autriche, et du côté de l'Autriche, et à l'ouest, c'est-à-dire en Espagne, et puis juste après la reconquête de l'Espagne, il y a eu la traversée de la Méditerranée, l'occupation d'une grande partie des villes d'Afrique du Nord par les Espagnols.
La
France apparaît à l'époque comme l'ennemi de la maison d'Autriche, et par ce fait, l'allié privilégié des pays musulmans.
Exactement la même chose du temps de François Ier.
Absolument. Et d'ailleurs, les corsaires barbaresques faisaient en réalité partie, à un moment donné, de la flotte française, puisque c'était eux qui affrontaient la flotte de Charles Quint.
Mais quand Moulay Ismaël écrit à Louis XIV pour lui suggérer de se faire musulman, quel peut être son état d'esprit? Est-ce qu'il croit que c'est possible, ou bien est-ce que c'est une formule qu'il croit obligatoire? Pensez-vous à sa sincérité, en l'occurrence?
Je pense que c'est beaucoup plus ce que je dirais pour la consommation locale. Je pense qu'à l'époque, on se sent contraint, quand on s'adresse à un souverain qui appartient à une autre religion, de lui faire cette proposition. On ne se fait pas d'illusions.
Il y a
de la naïveté, il y a surtout le poids des habitudes. C'est une habitude depuis très longtemps, quand on envoie des lettres à des souverains d'une autre religion.
On l'a fait pour le roi d'Angleterre. Moulay Ismaël ne l'a pas fait seulement pour le roi de France, mais pour le roi d'Angleterre.
Oui, on le faisait systématiquement, mais on n'insistait pas trop quand même.
Et cette proposition extraordinaire, n'est-ce pas, qui date des désastres de Louis XIV, de lui apporter l'aide des armées marocaines, quel sens peut-on lui donner?
Là, je pense que c'était sincère. Je pense qu'il y a des précédents. Par exemple, François Ier a reçu une offre des Ottomans pour envoyer des troupes au moment de Pavie. Il a reçu des messagers, lui.
Et même de le délivrer, il était prisonnier à Petit-Quétol.
Absolument.
Et même de le délivrer, parce qu'il
était livré à Petit-Quétol, donc avant qu'il ne soit transféré en Espagne.
C'est cela.
Mais pensez-vous que si il n'y a pas eu tous ces malentendus, si ce traité avait été suivi des faits plus précis, est-ce que vous pensez que l'histoire aurait pu en être changée?
C'est toujours difficile de refaire l'histoire, mais je pense effectivement, quand le Maroc de Moulay Ismaïl et la France de l'époque, il y avait un fossé moins profond qu'il n'y en a eu plus tard, quand ils se sont retrouvés au 19e siècle. Je pense que si à l'époque on avait su établir des rapports plus étroits, si on avait pu faire profiter le Maroc de l'évolution économique, scientifique de l'Europe occidentale, je pense qu'il y a des choses qui auraient changé. Et là, malheureusement, il y a un rendez-vous qui a été manqué, le Maroc n'a pas pu rester en phase avec l'Europe occidentale.
Oui, c'est évidemment une occasion perdue, mais je crois que ce ne sera pas une occasion perdue pour nos auditeurs de lire le dernier livre d'Amin Maalouf, son dernier roman, Samarcande, qui vient de paraître chez Lattès, après son grand succès, son immense succès, Léon l'Africain. La semaine prochaine, Jean-François Quin.
La semaine prochaine, à propos de l'apparition d'un livre très très récent de Guylain de Diesbach, nous nous pencherons sur un personnage tout à fait singulier, un fort grand sculpteur. Il s'agit de Marcello, Duchesse Colonna.
Collaboration technique, Mireille Coutier, assistante à la réalisation, Brigitte Nazi, réalisation de Georges Gravier.